De lecture importante, particulièrement aujourd'hui, et difficile aussi, mais dont on peut tirer beaucoup de, enfin, des enseignements importants. Donc Paul évoque la triste affaire d'un homme qui vit donc avec sa belle-mère, manifestement, et donc le scandale que ça représente pour le corps des fidèles auxquels il s'adresse, Corinthiens. Et alors ceci est important parce que tout de suite on en tire une conséquence, la réalité d'un corps composé de membres qui sont solidaires les uns avec les autres. Et la mauvaise action de l'un contamine l'ensemble. Alors, c'est la doctrine de l'Église, hein, lorsque quelqu'un pêche, fait un péché, un membre de l'Église fait un péché, eh bien, entre guillemets, l'Église s'abaisse, dans le mauvais sens du terme, et lorsque l'un de ses membres pose un acte de vertu, le corps qu'est l'Église se redresse. Nous avons donc une responsabilité extrêmement grande, les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est d'abord une chose très importante. D'autre part, nous avons quelque chose d'assez curieux. Donc le texte français dit bien que... Vous savez qu'un peu de levain suffit pour que la pâte fermente. Alors en latin, c'est rendu différemment, si l'on veut, puisque en latin, on a écrit « Necitis quia modicum fermentum totam mensam corrupit ». Donc ça nous montre que la fermentation, c'est une corruption. Ce qu'on savait, hein. C'est une corruption de la pâte. Et je trouve très intéressant que le latin apporte cette nuance qui nous montre précisément ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il suffit de peu de choses pour corrompre une pâte. Corrompre dans le mauvais sens du terme, ou bien l'élever dans le bon sens du terme. Autrement dit, il n'y a pas besoin de grand-chose pour abîmer l'Église. Alors ceci, évidemment, nous conduit à nos propres responsabilités. Que peut-on faire nous-mêmes pour aider notre mère à se redresser et que nous ne soyons pas à l'accabler? Bon, alors il y a les terribles questions d'abus qui ont secoué beaucoup l'Église catholique et continuent, parce qu'elle est la première à se remettre en cause en fait, hein, c'est assez simple. Mais on s'en fiche, c'est dramatique, c'est épouvantable, et ça ne peut pas concerner tout le monde. En tant que prêtre... On est bouleversé de se dire que quelqu'un de son corps sacerdotal a pu faire des trucs aussi impensables, abjects, irrévérencieux, irrespectueux, violents, méchants, que sais-je. Bon. Alors on peut toujours dire que c'est des maladies, peut-être, mais l'auteur de l'acte, il est mon frère. Donc ça c'est important, d'avoir bien ça à l'esprit, de profiter de cette lecture pour comprendre notre solidarité dans tout ce qui se passe et trouver du courage quand nous avons la tentation de faire des bêtises, de nous dire attention, tout le monde va en profiter de ta bêtise. Et puis Paul évoque le fait de livrer cet homme à Satan, donc ça c'est une pratique assez étonnante et quoi qu'il en soit, elle n'est pas en notre pouvoir. Le diable existe, il se manifeste peut-être de façon beaucoup plus ouverte depuis quelques dizaines d'années. Disons qu'on le remarque plus quand on a des yeux pour voir. Néanmoins, voilà. Bon, Paul avait quelque chose à l'esprit, il a une autorité. Bon, c'est intéressant de voir hein, qu'il livre le corps pour que l'âme soit sauvée. Ça reste très mystérieux, en tout cas pour moi. Dans l'évangile, nous avons cet extraordinaire évangile de l'homme à la main sèche. Donc c'est absolument bouleversant. Parce que d'abord cet homme n'a rien demandé. Il est venu écouter Jésus. Nous ne savons pas ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait, ce qu'il espérait. Mais Jésus l'a vu. Jésus l'a vu et Jésus voit autre chose aussi. Il voit la dureté du cœur des pharisiens. On peut même se demander si la guérison de cet homme n'est pas l'occasion d'un enseignement aussi pour les pharisiens. C'est assez étonnant. Et donc ils sont là pour épier Jésus. Donc c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas là pour voir ce qu'il fait, mais pour voir ce qu'il ne ferait pas, ou ce qu'il ferait en dehors du cadre. Donc ils ont déjà orienté leur regard, leur réflexion. Il s'agit de piéger cet homme. Leur cœur est fermé, quoi, autrement dit. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'avoir l'idée de se remettre en cause. Et en fait, là, il va se passer quelque chose d'étonnant. C'est que Jésus ne fait rien. Et c'est très très beau parce que... Au fond, Jésus prend au sérieux ces pharisiens. Pourquoi je dis ça? Mais parce que Jésus a dit une parole. Étend la main, et sa main fut guérie. Je crois que c'est hein? Étend la main, sa main redevint normale. Yoior va Yoior. Soit lumière, fut lumière. On a exactement l'action de Dieu qui agit à un moment où nous sommes dans la création et non pas dans le sabbat. Donc si ces hommes avaient eu le cœur ouvert, avec la connaissance qu'ils ont de l'Écriture, ils auraient pu se dire il n'y a que Dieu qui fait ça. Il dit une parole et il y a une action. Il n'y a personne d'autre dans l'Écriture qu'on connaisse qui agisse de cette manière-là. C'est une parole de recréation. Donc d'abord, ils auraient pu se dire ça et se dire, mais en fait, il est en amont du sabbat. Est-ce qu'il ne serait pas en train de recréer? Bon, là, il y avait une question à se poser. Et puis, il y a l'autre chose. C'est qu'en fait, ils viennent regarder s'ils respectent le sabbat. Donc déjà, évidemment, c'est eux qui sont hors cadre, hein, puisque Jésus n'est pas dans le sabbat. Il agit en dehors du sabbat, si je peux dire. Mais eux, ils sont dans le temps présent. Et le temps présent, c'est le jour du Shabbat. Alors qu'est-ce qui est écrit comme règle du sabbat en Exode 20, 8, 11? Et c'est quand même assez intéressant. Il y a cette idée que tu t'occuperas pendant 6 jours de toutes tes affaires. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. On a bien le possessif en hébreu, hein. Est-ce que Jésus est en train de travailler pour lui? Est-ce que la parole qu'il fait, il l'a fait pour lui? Autrement dit, sauver une vie, c'est plus important que mes affaires. la charité est au-dessus de la règle, qui en plus ne s'applique pas ici, puisque Jésus ne fait rien. Il n'y a aucun travail servile. Il y a un travail de libération, de vie. Et la vie, encore une fois, aurait dû ramener ces pharisiens à l'origine du monde. À l'origine, il n'en était pas ainsi, dira-t-il, au sujet du mariage, de renvoyer sa femme. Et bien là, c'est pareil, il revient à l'origine du monde, à la création. Il dit une parole, c'est extrêmement fort, je ne sais pas si vous mesurez la puissance de cette affaire-là, quoi. On est à la création, là. On est dans le premier chapitre, les premiers chapitres de la Genèse, premier chapitre. Il dit, et ça advient. Et Dieu vit que cela était bon. Ben, les pharisiens, ils n'ont pas vu que c'était bon. Voilà. Alors évidemment, ça nous parle aussi de nous. Est-ce que nous sommes ouverts à la recréation de Dieu sur nous et sur les autres, quelles que soient les méthodes que Dieu emploie, ou est-ce que nous sommes étranglés par les règles que nous figeons, et Dieu n'a qu'à bien se tenir. C'est une vraie question. Ça existe partout, à tous les niveaux, dans l'Église, bien sûr en dehors, mais dans l'Église, ça existe à tous les niveaux, et nous faisons souvent porter aux autres des fardeaux que nous n'essayons même pas de bouger du doigt.